Мы используем мою кафе «Ориентал». Я репито тальмасики.
Bon, vous êtes la nation de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. Dans une correspondance qu'il a adressée jeudi 28 janvier 2016 à Madame Kossana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, Étienne Tshisekedi, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, affirme que son parti n'est pas concerné par un dialogue ayant pour initiateur Joseph Kabila et pour facilitateur un délégué de l'Union africaine, en l'occurrence Edem Kodjo. L'UDPS suggère comme matière à inscrire à l'ordre du jour, entre autres, les contentieux électoraux de 2011. Certains observateurs estiment que cette volte-face de l'UDPS ne favorise pas l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez intervenir dans cette émission à l'adresse pa@radiokapi.net et vous avez également la possibilité de nous rejoindre en direct en composant les 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Philippe Zabongo d'Aïko Standard, Giro et la Meji à la réalisation et Hippolyte Kapanga à la mise en onde. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À vous tous, bienvenue.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne M. Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint et porte-parole à l'UDPS. M. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une volte-face de l'UDPS par rapport à cette question du dialogue?
Je suis très étonné d'entendre les gens parler d'un volte-face de l'UDPS s'agissant de la lettre adressé par le président du parti à Madame Kossana Zuma. Il ne s'agit pas d'un volte-face, il s'agit plutôt d'une confirmation de l'option levée par l'UDPS à propos du dialogue. Le président réaffirme notre position qui est celle de voir se tenir un dialogue politique conformément à l'accord Kadhafi-Abeba et les résolutions subséquentes du Conseil de sécurité sous la facilitation internationale. Dans ce courrier, le président ne renonce pas au dialogue. Au contraire, il réaffirme son attachement au dialogue, mais simplement, il insiste sur le fait que l'envoyé spécial de la présidente de la Commission africaine, en l'occurrence M. Edem Kodjo, devait avoir un entretien avec lui pour approfondir certains aspects liés à la tenue de ce dialogue avant de faire un rapport à la présidente de la Commission africaine qui l'a mandaté pour prendre des contacts avec le protagoniste congolais. Donc, dans cette lettre, il n'y a pas revirement, il y a plutôt confirmation. L'UDPS ne renonce pas au dialogue, réaffirme son attachement au dialogue, mais sous la facilitation internationale. Laquelle facilitation doit faire l'objet d'un processus au niveau de partie prenante. Concernant M. Kodjo, le président avait souhaité le rencontrer avant qu'il aille faire rapport à Mme Zuma, ce qui n'a pas été fait. Mais il réaffirme sa disponibilité de s'entretenir avec M. Kodjo sur la question de la facilitation. Donc, une certaine presse a essayé de dérouter l'opinion en essayant de faire croire que l'UDPS avait changé de position. Vous connaissez les deux traits caractéristiques de l'UDPS, c'est la constance et la consistance, ce qui les différencie des autres partis politiques en République démocratique du Congo. Et la constance a été encore une fois affirmée parce que le président dit « nous sommes attachés au dialogue, mais quant à la facilitation, nous devrions en parler parce qu'il y a des aspects qui doivent être clairs et nets de part et d'autre ». Voilà ce que j'ai tenu à donner comme précision pour vous dire que l'UDPS, le président Tshisekedi, c'est la constance et la consistance. Il ne va jamais déroger à ces deux traits caractéristiques du combat qu'est même l'UDPS.
Alors, Monsieur Bruno, parce que ce que l'UDPS considère aujourd'hui comme, disons, partie prenante au problème, disons, après avoir déjà convoqué les dialogues, les motivations ont été clairement définies, et à ce niveau, est-ce qu'il devait y avoir encore un débat autour de la question relative à la facilitation internationale ou non? Parce que la convocation, l'ordonnance convoquant les dialogues, elle a déjà été publiée.
Mais vous savez que après convocation du dialogue par M. Joseph Kabila, l'UDPS avait objecté en insistant sur le fait que cette ordonnance devait se limiter à poser le principe de la tenue du dialogue. Et quant à la convocation des partis, cela relevait du facilitateur. Et c'est pour cette raison que depuis 2 mois, le dialogue ne s'est pas tenu. Parce que l'UDPS s'en tient à ce que ce soit le facilitateur qui invite le parti à se retrouver pour mettre en place le comité préparatoire et ensuite aborder le point écrit à l'ordre du jour du dialogue lui-même. Donc, la question de la facilitation continue à se poser dans ce sens que il fallait que le secrétaire des Nations Unies désigne un facilitateur. Il l'a passé, c'est fait par la commission de l'Union africaine. Maintenant, il restait au facilitateur de rencontrer le président comme il avait promis, il l'a pas fait. C'est une question à examiner et à la fin de son courrier, le président dit très clairement qu'il confirmait sa disponibilité pour tout entretien pouvant permettre l'avancement du processus déjà engagé. Quel est ce processus? C'est la désignation par la commission africaine de M. Edem Kodjo. Donc les choses sont assez claires de ce point de vue.
Alors, nous avons cette lettre avec nous. Dans le deuxième paragraphe, le président Étienne Tshisekedi dit ceci: sur mon instruction, il lui a été remis à cette occasion notre feuille de route publiée le 14 février 2015 qui propose des pistes de solutions de sortie des crises et dans laquelle je donne ma vision du dialogue politique qui doit être conforme aux prescrits de l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 ainsi qu'aux résolutions subséquentes du Conseil de sécurité des Nations Unies 2098, 2147 et 2211. En effet, le dialogue politique que je prône et auquel je reste attaché est celui qui, sous la médiation internationale, va garantir 1. Le respect de la Constitution et des délais qu'elle prescrit, 2. Les règlements du contentieux électoral de 2011, 3. La restructuration de la CENI, 4. L'organisation des processus électoraux crédibles et apaisés, et 5. L'alternance politique par un transfert pacifique du pouvoir dans le respect de l'expression du peuple congolais. Mais vous n'imaginez pas, comme tout le monde, que la restructuration de la CENI pourrait encore nous faire perdre du temps.
Mais pas du tout, monsieur le journaliste. C'est une question capitale, c'est une question essentielle. Vous savez que nous avons connu 2 cycles électoraux qui se sont terminés dans le chaos, avec de fraudes, avec une mauvaise organisation, la publication de faux résultats. Nous considérons la CENI comme le facteur principal qui est à la base de l'échec de notre processus électoral et démocratique. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est extrêmement important d'avoir une CENI consensuelle, composée de personnalités en qui toutes les parties ont confiance et qui vont nous conduire à un processus crédible. Voilà pourquoi il est essentiel, il est impérieux de recomposer la CENI en ayant des personnalités neutres, compétentes, expertes en qui et l'opposition et le pouvoir en confiance. Si on ne le fait pas, ça signifie que les mêmes causes vont produire les mêmes effets et même le prochain processus auquel tout le monde fait confiance et qui est attendu comme le Messie va encore échouer dans un mur et ça sera quoi? Compromis. La recomposition de la génie, c'est quelque chose d'impérieux et de capital. Alors, si on ne le fait pas, le processus est voué à l'échec.
Oui, Bruno Tshibala, en 2011, il y a eu certains des sceptiques qui n'étaient pas d'avis que les élections allaient être également également apaisé. Mais à cette époque-là, à cette période-là, le président Tshisekedi a accepté tout de même d'aller aux élections, avec tous les risques que cela comportait. Voilà, le résultat, c'est ce que vous dénoncez, vous décriez, vous parlez de élections chaotiques. Alors maintenant, ne pas accepter d'aller encore aux élections parce que le fait de, l'avoir, de les avoir déjà organisées par deux fois, donc la RDC est capable d'organiser encore des élections apaisées pour la troisième fois.
Mais en rappelant ce qui s'est passé en 2011, vous donnez raison à lui de paix au président Tshisekedi. Parce que nous sommes très violents, malgré les imperfections, malgré toutes sortes de grièves qui étaient formulées contre la CENI, nous avions quand même, au nom de l'intérêt du supérieur du pays, nous sommes allés aux élections. Quel a été le résultat? On a tripatrié, on a fraudé. Voilà pourquoi maintenant, parce que le processus électoral en cours est un processus qui est capital. Nous ne voulons pas connaître la même situation que nous avons connue en 2011. Il faut donc améliorer les choses. Il faut donc rationaliser les choses. Rationaliser et la composition et le fonctionnement. Donc, il est important de recomposer la CENI. Une recomposition, c'est quelque chose qui peut se faire en une journée. Le pouvoir désigne ses experts en la matière. Le force du changement, sous la houlette de Tshisekedi, désigne. Et en une journée, nous avons une CENI crédible, une CENI sérieuse, une CENI en laquelle on peut faire confiance.
Alors, on a l'impression que
c'est une opération politique
oui.
qui est indispensable et il faut. Il va falloir le faire autrement en condamnant le processus encore une fois à un échec puissant et patent.
Alors, quand vous limitez ces débats au pouvoir et à Tshisekedi, et où est la place d'une autre phase de l'opposition?
Ouais, écoutez, nous sommes en train d'aller à une négociation après une crise née de la fraude électorale de 2011. Donc, il y a, d'un côté, la victime de fraude de 2011 et les bénéficiaires de cette fraude. Il faut qu'ils se retrouvent. Les autres membres, évidemment, on parle de l'inclusivité, vont être associés. Parce qu'il faut que tout le monde se retrouve. Mais dans une proportion qui ne nous amène pas à ce que nous avons connu en 2002 au dialogue intercongrès, parce que le trop-plein a conduit aussi à une certaine anarchie dans le fonctionnement du dialogue, donc des négociations.
Merci.
Nous voulons que cette fois-ci, les choses soient bien structurées, bien conçues, de telle sorte que le
dialogue. Je crois que c'est la réalisation pour nous permettre. On va garder Bruno juste pour écouter deux, trois auditeurs. Et puis on reviendra à vous pour conclure avec vous, M. Bruno. Et puis on va continuer l'émission avec les auditeurs qui vont émettre également leur point de vue par rapport à cette question. Merci beaucoup, Bruno. Nous vous gardons encore en ligne. Mozart, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Monsieur Mozart, vous êtes avec nous? Voilà, nous restons toujours à Kananga avec Maître Adrien. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo. Bonjour à M. Bruno.
Vous avez la parole, Maître Adrien.
Oui, merci JR de la parole que vous m'accordez. Je m'en vais commencer pour poser la question de savoir si les acteurs politiques congolais devraient d'abord se mettre d'accord autour du cadre juridique leur permettant de convoquer les dialogues. Parce que si on a déjà la réponse autour de cette première question, à ce moment-là, il n'y aura pas encore débat. Si ils acceptent, si ils se mettent d'accord que le dialogue tant attendu par tout le monde sera convoqué sur base donc des accords d'Addis Abeba, à ce moment-là, je me dis, l'UDPS n'a pas tort donc de dire qu'il faut revenir sur son cahier de charges. Parce que hier, j'ai suivi même le secrétaire général du PPRD, M. Harry Mobasakan, ici, au RFI. Il a dit exactement ce que M. Bruno venait de dire. Il dit que Tshisekedi n'a pas changé la position. Il est resté constant sur sa position, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec le dialogue, mais néanmoins que ce dialogue-là ne soit pas convoqué par le chef de l'État. Pourquoi? Parce que, selon Tshisekedi, le chef de l'État se fait juge et parti au même moment. C'est là que moi je dis qu'il faut.
Oui, Maître Adrien.
Oui.
nous avons tous lu l'ordonnance convoquant les dialogues. Dans les motivations qui ont permis d'ailleurs certains États, après consultation bien entendu des parties prenantes, il a évoqué dans son ordonnance la résolution 2098, dont fait allusion également le président Étienne Tshisekedi. Il a fait mention de l'accord cadre, ainsi que le comité de suivi pour l'accord cadre que pilote actuellement François Mwamba et la constitution. Bon, néanmoins, au niveau de contenu de l'article 1er jusqu'au 6e, là, on ne parle que du comité préparatoire, on parle des délais convoquant les comités, disons, mettant en place les comités préparatoires, nulle part, l'ordonnance est revenue sur l'accord cadre. Alors, je crois qu'à ce niveau, c'est comme si les politiques parlent le même langage, mais quelque part, il n'y a pas de franchise dans le contenu de ce que sera réellement le débat.
Exactement, JR, vous avez totalement raison. Donc, c'est là que moi je me dis si il n'y a pas vraiment une idée derrière donc la tête des politiciens congolais, je ne trouve pas en quoi la réclamation des thèmes qui s'étaient dit posait problème s'ils sont déjà d'accord sur le principe. Parce que le problème ici est clair, même si on n'est pas sur le plan juridique, mais sur le plan tout simplement de bon sens. Moi, je me dis, par rapport à cette condition-là, il n'y aura pas de problème. Mais là où le bas blesse, JR, c'est lorsque vous nous avez lu la lettre du président Tshisekedi, vous allez prendre compte qu'il y a deux points qui entrent en contradiction, à mon humble avis, selon mon entendement. Mm-hmm. Le président Tshisekedi fait allusion à la restructuration de la CENI. Et aussi, le président Tshisekedi fait aussi allusion au respect donc du délai
constitutionnel.
Oui, je me dis, mais par rapport à ces deux points-là, M. Bruno, ne voit-il pas qu'il y aura une certaine contradiction? Parce que si on restructure la CENI, obligatoirement, le respect constitutionnel ne sera pas démis. Si on ne respecte pas donc la restructuration, il y aura toujours des problèmes. Maintenant, pour citer, vous allez prendre compte que ce point invoqué par le président Tshisekedi a été aussi invoqué par le rapport donc de la CENCO, lorsque ce rapport-là disait que la majorité de la population congolaise ne faisait pas confiance à l'actuelle CENI. C'est comme ça, moi je me dis, si nous restons sur cette recommandation du président Tshisekedi, donc il ne faut pas que nos amis de l'UDPS puissent encore tenir au respect du délai constitutionnel.
Merci beaucoup, Maître Abdiya. Eddy, vous êtes à Matadi. Bonjour, Eddy.
Bonjour.
Vous avez la parole. Quel est votre avis, Eddy?
Ok. Moi, plutôt, j'ai vraiment une préoccupation qui concerne la manière dont l'information a été donnée. J'ai parcouru, j'ai lu et relu la lettre. De Étienne Tshisekedi. Nulle part, il a dit non au dialogue. Mais l'information a été relayée par le presse local ainsi, comme étant Tshisekedi ne veut pas de dialogue. Tshisekedi est resté accroché dans ces principes-là parce que c'est un parti, c'est le président d'un parti politique qui ne fait pas la lutte violente. Il s'est inscrit pour la lutte non violente. Maintenant, pour les dialogues, mais tout ce qu'il dit là est vrai. Ceux qui refusent le dialogue, nous les connaissons, mais tiens, Tshisekedi veut le dialogue. Nous devons cesser d'informer les gens de façon détournée. Détourner l'information, ce n'est pas bien. La lettre ne dit pas que Étienne Tshisekedi ne veut pas de Nkoutou, Étienne Tshisekedi ne veut pas de dialogue. Non. Vous avez la lettre, vous pouvez le lire et puis expliquer à l'opinion. C'était ça un peu ma préoccupation. Parce que moi, la toute première information que j'ai reçue, c'était sur Radio Capi. Et vous avez relayé l'information comme étant Étienne Tshisekedi ne veut pas de dialogue. Oh, ce n'est pas le cas en lisant la lettre.
Voilà, je crois que si vous avez bien suivi l'information qui vous avait été livrée sur le nom de Radio Capi, elle n'a pas été dite comme telle, mais ce sont plutôt les membres, certains membres de l'UDPS qui sont intervenus dans nos différentes émissions élaborées, qui ont donné le point de vue. Et jusque là, finalement, si nous revenons sur cet aspect des choses, parce que même au sein de l'UDPS, il y a quand même quelques contradictions des uns qui affirment qu'effectivement, cette lettre vient mettre fin, en tout cas, à toute cette discussion autour du dialogue. D'autres, par contre, estiment que non, ça vient plutôt d'ouvrir le chemin vers ce dialogue. Vous venez de suivre le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UDPS, qui a insisté pour dire que voilà, Tshisekedi n'est pas, il ne s'oppose pas au dialogue, mais plutôt il donne des conditions. Il faut parler de règlement du contentieux électoral de 2011, le respect de la Constitution, la restructuration de la CENI, mais d'autres, au regard de ces conditions, ils trouvent que ça risque de faire passer l'État inutilement et même d'aller au-delà même du délai constitutionnel. C'est dit.
Oui, mon frère, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais soyons calmes. Hein. Le problème du Congo amène beaucoup de sensations. Et beaucoup de gens parlent avec beaucoup de sentiments. Si nous analysons clairement la situation, pourquoi on est arrivé là? Parce qu'il y a eu les élections de 2011. Comment pouvons-nous traiter le problème du Congo sans pour autant parler des élections de 2011? Nous devons en parler.
Voilà, merci beaucoup Eddy, parce que la lettre, l'objet de la lettre, c'est la facilitation du dialogue politique en RDC. Donc on peut dire Tshisekedi ne s'oppose pas au dialogue, mais il demande à ses complices de revoir un peu la question sur la facilitation de ce dialogue. Merci beaucoup. Alors, Franck, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, Franck.
Oui, merci beaucoup, M. J.R. Moi, je m'attendais à tout cela. Je savais très bien que même s'il y avait dialogue, il devait y avoir un blocage quelque part. Parce qu'aujourd'hui, personne n'ignore que Tshisekedi a affaire avec un camp qu'il a combattu hier, à l'époque de la Deuxième République. Regardez, aujourd'hui, on trouve les gens qui ont mal entretenu le système dans la Deuxième République, ils sont aujourd'hui dans le parage du chef de l'État actuel, qui, on voulait bien qu'il puisse avoir vraiment une nouvelle place politique, comme on l'avait fait. Les gens qui veulent la démocratie, les gens qui veulent la paix. Mais aujourd'hui, si vous regardez, même si ces gens-là, aujourd'hui, j'essaie de ce qu'ils acceptent, parce qu'ils essayent de dialoguer. Je crois que l'État en face est composé d'anciens mouvoutistes, les gens qui ne parviennent pas à accepter qu'il y ait vraiment la vraie démocratie dans ce pays. Je crois que, je ne sais pas, du moins que les messieurs lui-même descendent, je ne sais pas, même si ces gens-là se mettaient ensemble, on prend les camps de Tshisekedi, les camps de l'âme, comme on l'appelle aujourd'hui, pour parler dans ces dialogues, il n'y aura pas de solution. C'est que je suis plus en train de voir. Pourquoi? Parce que je vois les gens en face. Il y a certaines d'entre eux qui ont même pris les armes, qui ont combattu pour dire non, nous allons entrer au RCD pour combattre la démocratie, la dictature. Aujourd'hui, ces gens-là se trouvent de l'autre côté en train de parler. Ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. Le changement, ce n'est pas seulement la personne du président Kabila. C'est le système. Nous voulons vraiment entrer dans un système démocratique, comme on l'a dit, comme au Ghana. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est parce qu'on trouve les gens qui ne voulaient pas les changements à l'époque de Mobutu, qui sont maintenant aujourd'hui à côté de Joseph Kabila. C'est vraiment malheureux pour mon pays.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous prenons Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci pour la parole, monsieur Gilles. Moi, je crois qu'à mon avis, il faut faire la distinction de ce que veut les uns et ce que veut les autres. Dialogue, en tout cas, ça c'est un vertu. Mais il faut définir ce mot dialogue. Dans quel sens nous l'orientons? Avoir la façon qu'oriente le dialogue par M. Kabila, le chef de l'État, c'est tout à fait différent par rapport à ce que veut M. Tshisekedi. Il faut définir ces deux options. Et ce que veut M. Hassan, M. Hassan parle le vrai dialogue, ce sont les élections au délai constitutionnel. Ça, c'est le premier, c'est le dialogue. Et après, on verra tellement qu'il y a très peu de situations chez nous au pays, on aura tout le temps de résoudre ce problème. Parce qu'il faut d'abord enlever ce qui nous dérange, ce qui nous trouble. Je crois que c'est le délai constitutionnel, c'est le calendrier donné par la Constitution. Voir comment M. Kabila veut organiser ce dialogue-là. Savoir ce que M. Kabila veut organiser, c'est une façon de voir comment arranger ou, je ne sais pas, répéter ou arranger, s'il faut le dire, les élections à venir. Est-ce que ça serait par les délais constitutionnels ou pas? Enfin, maintenant, pourquoi oriente M. Tshisekedi le dialogue? Lui, pour lui, on rentre d'abord résoudre les conflits entre lui et Kabila, le conflit des élections de 2011. Mais
avant toutes ces situations-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que devant nous, nous avons un mur. Le mur est établi par la Constitution. C'est d'abord c'est ce qu'il faut résoudre. Et après, on verra. On verra ce qu'il faut faire. Mais d'autre part aussi, il faut mettre quelques critiques sur la personne de Tshisekedi. Moi, j'ai connu Tshisekedi depuis que je suis encore sur le banc de l'école et en tant qu'étudiant. Mais quel est Tshisekedi exactement? Si vous regardez, vous voyez très bien, vous analysez la façon d'agir de M. Tshisekedi, toujours nous reculons. On nous fait toujours le débat en reculant. On ne regarde pas. En 2011, on était en train de discuter les affaires de Sam City et les affaires de la conférence nationale souveraine. On arrive en 2016, on regarde ce qui se passe en 2011. Et quand on arrivera en 2021, on va regarder ce qui se passe en 2016. Alors, toujours après ces élections, surtout les élections constitutionnellement établies par un certain calendrier constitutionnel. Et de là, si nous pouvons voir ça clairement, nous allons résoudre le problème. Alors, tout le reste là, dans une famille, il y a toujours des problèmes. Nous allons toujours dialoguer. J'ai toujours dit, le dialogue, c'est permanent. Ce n'est pas quelque chose où il faut organiser ça à un forum. Ce genre de forum-là, c'est déjà dépassé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène, de nous avoir amené dans la théologie morale, qui explique clairement d'ailleurs c'est quoi les dialogues. On sait que le dialogue, c'est se parler, dialogue de la Christ Église, c'est s'écouter, et au-delà de s'écouter, c'est pratiquer, et c'est que l'autre veut. Voilà, donc, comme pour dire, c'est vrai qu'on veut un dialogue inclusif, même si les autres ne font pas partie de ce dialogue, mais il faut quand même écouter ce qu'ils proposent, qu'ils font comme des propositions. Merci beaucoup, Arsène, 081-890-6315, pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la TNU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces, à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Nous avons Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint et porte-parole de l'IDPS. Monsieur Bruno, on va vous accorder quelques minutes avant de vous libérer. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. D'abord, comment vous réagissez? Et puis, il y a beaucoup quand même qui s'inquiètent aujourd'hui de la position de l'UDPS qui évolue avec le processus et en même temps reculant. Donc, c'est quand même inquiétant pour les uns et les autres.
Oui, je remercie les intervenants pour leur contribution à ce débat. Je voudrais répondre à quelques préoccupations. Je crois que, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, l'UDPS est caractérisé par la constance et la consistance. Et on n'a jamais dérogé à ces traits caractéristiques de notre combat. L'information qui a été donnée avait prêté à la confusion, mais je viens en tant que porte-parole de vous préciser que l'UDPS reste attaché au dialogue selon l'accord cadre et les résolutions. Un intervenant a estimé qu'il y aurait une contradiction entre le respect de délai et la recomposition de la CENI. Il n'en est rien. Le respect de délai, c'est constitutionnel. Mais quant à la CENI, il faut une bonne CENI pour avoir des bonnes élections. On ne peut pas avoir des bonnes élections lorsqu'on a une CENI qui est tout dédiée à la fraude au service de certaines forces et non au service de la nation. Donc la recomposition n'a rien à voir avec les délais. On peut recomposer en un jour et respecter le calendrier tel que sera convenu au dialogue par la CENI qui sera mise en place.
Mais M. Bruno.
En ce qui concerne une certaine contradiction qui serait au sein de l'UDPS, il n'y a pas de contradiction. L'UDPS parle d'une seule voix, celle de son président, et le président dit clairement, nous restons attachés au dialogue, et ce dialogue se fait selon l'accord cadre et les résolutions. C'est clair et net. C'est comme l'eau de la source dans un verre clair. Il n'y a pas de contradiction. En ce qui concerne le blocage auquel arriverait le dialogue, même si on se retrouvait, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut être positiviste. Le pays est en crise, il faut la bonne volonté de chacun pour que nous arrivions à sortir de cette crise et à faire un consensus sur le processus en cours de telle sorte que l'avenir des filles et des fils du Congo soit un avenir meilleur. Nous devons nous départir du passé fait de violence, de tuerie, d'absence de consensus. Nous allons construire un consensus. Ce consensus est nécessaire pour notre pays. Donc il ne peut pas y avoir de blocage. On va tous faire un saut patriotique pour qu'il y ait un consensus, donc un compromis. Pour ce qui est d'un conflit qu'on chercherait à régler, donc celui du contentieux, le 2011, c'est un autre problème. Mais il y a le calendrier électoral, il y a le fichier électoral, il y a l'enrôlement des majors, il y a toute une série de problèmes qui sont soulevés dans notre feuille de route. C'est de tous ces problèmes que dépendra donc le compromis à rechercher à tout prix par les Congolais qui vont se retrouver au dialogue au nom de fils et filles de ce pays. Je voudrais dire au collègue qui est intervenu le dernier pour dire depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi ne demande qu'une chose, c'est l'état des droits démocratiques, la justice, le bien-être des Congolais. Et Tshisekedi a toujours été prêt à se faire violence, lorsqu'il s'agit de faire promouvoir l'intérêt supérieur. Ce qu'il faut retenir de Tshisekedi, c'est qu'il faut compter sur lui lorsqu'il s'agit de violer la volonté, de violer l'aspiration des Congolais à un bien-être. Voilà ce qui caractérise Tshisekedi. C'est sa opiniâtreté, sa ténacité, sa ferme résolution de voir les Congolais vivre mieux dans leur pays plutôt que de les trahir. C'est ça la différence. Il n'y a pas conflit entre Tshisekedi et qui que ce soit. Il s'agit de se mettre en rapport, en synergie avec les valeurs pour lesquelles Tshisekedi se bat et pour lesquelles il n'entend pas transiger. C'est tout cela la différence.
Alors, M. Bruno,
je voudrais répéter encore une fois ceux qui sont intervenus pour leur dire le dialogue est utile, le dialogue est indispensable selon l'accord cadre et nous arriverons à trouver un consensus qui est nécessaire à l'avenir de notre pays.
Alors revenons à ce qui concerne la restructuration de la CENI. Là, il y a quand même des inquiétudes qui tiennent la route, hein, dans la mesure où cela passera par le Parlement, bien entendu en commençant par l'Assemblée nationale, où les députés doivent légiférer, revoir la loi sur le fonctionnement de la CENI. Et tout ça, il faut prendre du temps. Le mois de mars, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Peut-être il y a encore d'autres priorités et d'autres matières qui sont restées en suspens au niveau de Parlement. Ça ne sera pas la question à l'ordre du jour. Ce n'est pas un cadre juridique qui va définir va changer toute une loi. Alors là, toutes ces préoccupations, vous ne craignez pas que demain, nous puissions encore avoir des problèmes par rapport au temps?
Oui, merci beaucoup. Vous faites bien de poser cette question. Et nous disons sans détour que nous sommes dans une crise et cette crise sera réglée par le compromis qui sera trouvé au dialogue politique entre Congolais. Et donc tous les aspects que vous soulevez seront réglés par le compromis que nous trouverons au dialogue politique. Vous parlez de choses de Parlement, mais le Parlement là lui-même, il est bicaméral. Le Sénat n'a pas de mandat. Ce sont des messieurs qui sont là et tout simplement parce que nous sommes ici au Congo où on ne respecte même pas la durée du mandat alors que
l'article
222 est tout à fait clair.
Merci beaucoup. Vous
voyez un peu ceux qui sont à l'Assemblée. La plupart ont été nommés. Le projet des deux gouverneurs de province, des assemblées provinciales. C'est ça la crise dans laquelle nous partageons aujourd'hui. Il faut régler tous ces problèmes au niveau du dialogue politique. Le compromis que nous trouverons va régler toutes ces questions-là. Et la question de la CENI ne va pas compromettre l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles. Nous souhaitons que ça soit dans le respect des délais.
Voilà ce que
je pourrais dire à ce stade.
Merci beaucoup, Bruno, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'IDPS. Merci beaucoup. On va prendre Amato qui est à Bukavu, qui nous a rejoint. Amato, bonjour.
Bonjour, JR. Je salue tous les auditeurs de Radio Okapi. Je félicite, j'en profite pour féliciter les Léopards, les jeunes qui nous ont fait la fête de notre pays à Kigali le samedi, j'y étais personnellement.
Voilà, alors le débat tourne autour de la lettre de Thierry Tshisekedi adressée à son excellence Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine. Alors comment vous analysez cette lettre et quels commentaires faites-vous par rapport à ça?
Merci. Pour parler de la lettre du président Tshisekedi, je salue le ministère de l'IDPS, que nous avons bien lu, qui concerne le dialogue. Je vais aussi parler, faire un petit rappel par rapport à ce dialogue. Au lendemain des élections de 2011, la classe politique a été agitée. Il y a eu un groupe qui a considéré que le président Kabila a volé les urnes, et notamment un groupe soutenu par Charles Kamere et le président du Tshisekedi, mais on a accepté, le président du Tshisekedi est allé à la CENI, à la Cour suprême, pour présenter un dossier. Le dossier a été rejeté. Mais il a à ce moment-là aussi demandé qu'il y ait un dialogue. Mais le président de l'IDPS et le président Kabila, chacun avait prêté serment dans le lieu qu'il avait choisi. Mais aujourd'hui, les évêques ont fait toute une démarche pour qu'il y ait un dialogue. Le dialogue a été rejeté, on a dit aux Congolais qu'il n'y avait pas de crise. Vous vous rappelez qu'une délégation de l'opposition était allée à Addis Abeba pour rencontrer le chef de l'État qui était réuni pour lui demander qu'il y ait dialogue au Congo.
Mm-hmm.
Personne n'avait écouté, on a dit, la réponse était nette qu'il n'y avait pas besoin d'un dialogue. Mais pour le président Kabila, il avait gagné les élections. Pour le président Tshisekedi, il avait gagné aussi les élections. Et pour lui, il était seulement question qu'il obtienne l'intérieur. L'État a évolué, vous vous rappelez, nous avons eu en mai 2012 la guerre bien 23. Le président de l'IMC avait suivi dire qu'il faut encore un dialogue qui rassemble et les classes politiques, et la société civile, et tous les groupes armés pour qu'une fois pour toutes, on les demande de ne plus jamais prendre les armes contre la République. Malheureusement, encore à ce moment-là, personne n'avait suivi. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? À quelques jours de la tenue des élections, à moins d'une année, l'IDPS devient le mandataire des élections, des dialogues. Pour le camp de la dynamique de l'opposition, ils disent non, pour nous, le temps qui nous reste, nous devons aller aux élections. Parce que si nous commençons par discuter autour de qui a gagné les élections, qui n'avait pas gagné les élections, on va perdre le temps et on ne va pas avoir les élections dans les délais constitutionnels. Par rapport à la lettre du président de l'IDP, que je respecte beaucoup, je suis respectueux des aînés. Je considère que je respecte sa position, mais je déplore qu'il y a des indisciplinés autour de son au sein de son parti politique. Il dit qu'il ne veut pas le dialogue, mais il est le président Kabila, et les autres disent qu'ils sont d'accord à aller à n'importe quelle élection. Je viens de quel dialogue? Je viens de suivre la précision de son porte-parole, que je salue et j'apprécie la précision qu'il vient de donner. Mais quand vous lisez bien la lettre du président de Tshisekedi, vous sentez que même lui aussi n'est pas d'accord, et il dit clair, n'est pas d'accord avec le dialogue du président Kabila. C'est une manière intelligente pour un sage, un âgé de nous tous, un peu politique, de dire je ne veux pas de ce dialogue. Maintenant, on va obtenir ce dialogue, parce qu'un des dialogues a été déjà convoqué par le président Kabila, dans son ordonnance du 28 novembre 2015.
Mm-hmm.
Et dans son ordonnance, il avait dit que dans les 10 jours, on devait avoir les comités préparatoires. Nous sommes le 1er février, déjà 2 mois et plus, on n'a pas ni comité préparatoire, ni organisation du dialogue. Est-ce que quand il va encore prendre la parole, le président Kabila, que nous respectons beaucoup, ça sera pour convoquer le dialogue ou pour faire quoi? Le problème ici se présente comme si nous étions en face des deux chefs de l'État. Je crois qu'apparemment, avoir le comportement dans le camp du président Kabila, on a l'impression comme s'il avait accepté que le président Tshisekedi, il était son homologue. La preuve, c'est qu'il commence à lui envoyer des émissaires. Et le président Tshisekedi, qui lui aussi se convient comme président, il dit ce n'est pas mon homologue qui va me convoquer ou m'inviter. Je préfère que ce soit la communauté internationale. Mais ce qui étonne aussi, c'est de trouver que le président Kabila, après avoir adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, avait lui-même, avant d'obtenir la réponse, convoqué le dialogue. C'est ce qui montre qu'il y a un risque féroce par rapport à ce dialogue. Et c'est pour cela que moi je suis de ceux qui disent, le temps qui nous reste, nous devons aller au dialogue. Vous savez, avec tout cela qu'on a tué à l'Est de la République démocratique du Congo, avec tous les viols, ici on a occasion de saluer le travail sur le Dr Mukwege, Les jeunes à l'aide de nous, nous avons besoin d'aller aux élections pour obtenir un changement. Peut-être qu'avec un nouveau leadership visionnaire à la tête du pays, on va avoir de nouvelles idées sur comment sécuriser les citoyens, comment mettre les Congolais dans les conditions normales. Parce qu'avec la guerre des communautés, entre ceux qui souhaitent le dialogue, parce qu'aujourd'hui il y en a, vous sentez aujourd'hui, il y en a même parmi ceux qui souhaitent le dialogue, il y en a qui veulent aller à la transition, ne cachent plus l'intention de dire qu'il faut aller à la transition. Ça nous dit que peut-être qu'ils ont plus, ils sont plus bavards, ils ont dit ce qui est mijoté dans les camps de ceux qui ne veulent pas les élections. Donc nous nous disons par respect au président Kabila, par respect au président de l'IDPS, dont j'ai salué la position, que nous devons aller aux élections dans les délais constitutionnels. Parce que c'est contradictoire de dire nous devons nous réunir pour qu'on règle les contentieux de 2011. Et qu'au même moment, on dise, on va aller aux élections qui restent des délais constitutionnels. J'ai toujours posé la question, je l'avais posé la question à Félix Tshisekedi lors de son passage à Bukavu. Si lors de ce dialogue, Félix Tshisekedi réclame, le président Kabila dit aux gens, aux amis de l'IDPS, il leur dit oui, Tshisekedi, c'est vous qui avez gagné les élections. Vraiment, c'est votre mandat, vous pouvez. Quelle est la conséquence de cette décision? Si le président Kabila a accepté que c'est celui qui avait gagné les élections.
Mais voilà,
voilà pour tous les problèmes, c'est là que j'ai dit.
Oui, c'est le lieu ici de
braver. Parce qu'on doit faire en fonction de la demande de tous les Congolais. Qu'est-ce que les Congolais souhaitent maintenant? C'est ce qui a été dit le samedi après les matchs. On a suivi à l'INCD une vidéo qui se tire où les gens ont dit le mandat du président Kabila a pris fin. Et nous devons aller aux élections qui respectent les délais constitutionnels.
Merci beaucoup, Amatou. On vous garde un moment, le temps de prendre Patrick de Lubassi. Patrick, bonjour, Patrick.
Bonjour, JR, et bonjour à tous.
Vous avez la parole, Patrick. Vous êtes à Lubassi. Oui.
Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui, mais en tant que jeune, nous sommes en train de regretter tellement le comportement des acteurs politiques congolais. Qui est de la majorité et de l'opposition ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi veut aller au dialogue, il va aller là-bas en tant qu'élu, parce que lui, il a prêté serment en tant que président élu. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la légitimité du président Kabila. Alors, s'il accepte d'aller au dialogue, il va aller là-bas en tant qu'élu. C'est ça un peu ma question. Et deuxièmement, ceux qui ont convoqué ce fameux dialogue, mais je ne sais pas, ils attendent qu'ils puissent avoir l'unanimité. Je ne sais pas, il n'y en aura jamais. Et ceux qui sont pour les dialogues, que la majorité puisse aller avec eux. Et ceux qui ne sont pas pour les dialogues, finalement, ils restent et les choses avancent. Parce que là, nous sommes bloqués, finalement, le gouvernement va dire que non, ou la majorité va dire que nous attendions le point de vue, la position de l'IDPS et d'autres partis de l'opposition. Peut-être qu'il y aura, qui ne vont jamais adhérer à cette convocation du président Kabila. Je pense que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous avons perdu des repères, que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition, on ne sait plus où s'accrocher.
Voilà, je pense que...
la démagogie, il y a tellement de positions absurdes.
Voilà, nous rappelons...
Dans le langage des acteurs politiques, je pense que ce n'est pas...
Voilà, parce que vous parlez de langage politique, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ça traîne? C'est vrai, le dialogue doit être inclusif, mais du moins, il y a déjà une bonne majorité qui accepte déjà d'y aller. Pourquoi ne pas aller avec ceux-là qui ont déjà accepté, question de gagner un temps, au lieu de tourner autour de qui veut, qui ne veut pas. Alors là, ça fait passer inutilement les temps. Voilà, donc merci beaucoup Patrick. Je crois que nous avons eu à poser cette question et je crois que le porte-parole de la majorité, l'un des porte-parole de la majorité qui est passé sur toute la presse pour expliquer, il a dit, si ça traîne, c'est juste une question technique qui a fait qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas encore la mise en place effective, n'est pas intervenu. Merci beaucoup Patrick. Voilà, il y a juste un petit problème technique qu'on doit régler avant
de... Depuis, bientôt, la convocation du dit dialogue va totaliser une année depuis que les chefs de l'État ont entamé...
Non, même pas. La convocation, l'ordonnance est intervenue le 28 novembre, si ma mémoire est bonne, je crois, le 28 novembre. Ça fait pratiquement 2-3 mois. et que le comité préparatoire devait plutôt intervenir 10 jours après. C'est là où nous avons fait même les débats sur les délais, les 10 jours qui devaient suivre pour les comités préparatoires. Bon, voilà, donc là nous parlons sous contrôle des juristes qui peuvent peut-être interpréter cette ordonnance. Merci beaucoup Patrick d'avoir appelé à Lubumbashi. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Jean-Mouillement.
Vous avez la parole, Maurice.
Bon, je pense que d'abord, parlant de l'ordonnance, cette ordonnance est tombée caduque, hein, dès lors que les délais qui prescrits, en fait, pour la formation, en fait, du comité, la constitution du comité préparatoire n'a pas eu lieu. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler, en fait, de cette ordonnance. Quelqu'un voulait savoir que Tshisekedi va y aller en tant que qui, comme président ou quoi. Le dialogue dont on parle ici, qu'il n'y aura pas de casquette politique dans ce dialogue. Tout le monde qui va aller, il va aller en tant que Congolais. Raison pour laquelle même Tshisekedi insiste à ce que les dialogues n'aient pas en fait cette influence de l'individu. Hein? Parce que Kabila faisant partie du problème, il est clair dans cette lettre. Il a dit ceci. Kabila faisant partie du problème à résoudre ne peut pas être juge et parti. C'est-à-dire, c'est pas à lui à initier, c'est pas à lui à fixer, en fait, les modalités pratiques de ce dialogue. Parce que lui-même fait partie du problème qu'on doit résoudre dans ce dialogue-là. Alors, il dit qu'il veut un dialogue pour recadrer les processus électoraux. Nous avions organisé les élections dans ce pays en 2006. Dans les mêmes conditions qui sont observées aujourd'hui. En 2011, nous avons évité le même exploit malheureux, dirais-je. Alors, mais en 2011, on est prêt, ceux qui demandent mordicus, la tenue des élections en 2016, sans pour autant étudier les paramètres, hein, tous les paramètres possibles pour une élection crédible. Alors, raison pour laquelle lui dit que il faut qu'on puisse revoir ce processus électoral, revoir surtout le processus électoral. Et lorsqu'il parle de contentieux électoral 2011, c'est d'abord, c'est juste comme un chauffeur qui conduit, qui doit toujours fixer un regard attentif ou attentionné sur son rétroviseur. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on doit toujours répéter les mêmes expériences malheureuses dans ce pays. 2006 comme 2011 risque en fait de se répéter si on ne peut pas jeter un coup d'œil de ce qui a été en fait les élections de 2011. Parce que ce sont des élections qui ont été qualifiées de chaotiques. Des élections en fait qui ont mené une situation qui aujourd'hui nous rattrape. Parce que depuis 2011 jusqu'à ce jour, tellement que les institutions qu'on a placées ont été issues de cette fraude électorale. Alors, les résultats de la fraude nous ont amené ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que nous observons? Le pays tube depuis 2011 jusqu'à ce jour, le pays n'avance pas. On sent que réellement il y a eu problème. Ceux qui ont été réellement élus n'ont pas été proclamés. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui.
Oui, Maurice, à croire tout ce que vous débitez, c'est comme si nous allons droit vers la révision de la Constitution. Parce que tout doit être revu, parce que Bruno Tshibala venait de dire tantôt, le Sénat est hors mandat, l'Assemblée nationale, on a nommé les gens. Finalement, il y a vraiment l'apothéose, il y a la bouillabaisse, il faut tout reprendre, tout remettre à zéro.
Non, il faut carrément revoir la Constitution. Ce n'est pas une situation fortuite, c'est ce que nous observons. Ça a été prémédité. Donc, les choses ont été faites de manière que aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Parce que ceux qui ont eu le pouvoir d'organiser les élections de députés provinciaux, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils estimaient qu'ils avaient la majorité dans toutes ces assemblées. Ils avaient les gouverneurs qui sont acquis, en fait, à leur cause. Alors, pourquoi ils devaient organiser des élections pour changer, par exemple, les systèmes de gouvernance? Pourtant, ils avaient, en fait, acquis cette majorité à tous les niveaux. Raison pour laquelle nous disons, comme nous avons observé que la volonté d'organiser les élections, il n'y en a pas avec ce régime, c'est-à-dire on ne doit pas permettre, on ne doit pas les forcer à organiser des élections parce que ces élections seront plus catastrophiques que celles qu'on a connues en 2011.
Alors, pourquoi ne pas...
Allons au dialogue.
Maurice, pourquoi ne pas attendre jusqu'au 20 novembre? Parce que le mandat court encore, le mandat c'est jusqu'au 20 novembre. Comme ça, le 20 novembre, nous rentrons tous consulter la Constitution. Qu'est dit la Constitution quant à ce ? Parce que la Constitution parle également des dispositions à prendre en cas, par exemple, d'un vide juridique ou encore quand il n'y a pas élection. Si jamais il y a une volonté manifeste du gouvernement de ne pas organiser les élections, qu'est-ce qu'il faut faire ? La Constitution a déjà débattu toutes ces questions.
Mais lorsque vous suivez la démarche de régime au pouvoir, vous comprendrez à travers leurs communicateurs en fait dans les différents médias qu'ils soutiennent l'article 70 qui stipule que à la fin du mandat du chef de l'État, l'actuel chef de l'État demeure jusqu'à l'installation du président, du nouveau président élu. Vous voyez déjà, ça ce sont déjà des velléités qu'on observe.
Non, ça c'est bien
qu'on attend
ça,
qu'on arrive, oui, comme vous disiez, oui, ça, à la fin de novembre, et qu'on constate que les élections n'ont pas été organisées. Alors, ils ont déjà le temps ici pour organiser les choses, aller dans ce dialogue et dire des vérités
quant à ça. Alors Maurice, là vous évoquez la part de la majorité, mais l'opposition aussi a sa part, parce que l'opposition aussi évoque l'article 64, au cas où il constate que le gouvernement, par une volonté manifeste, n'a pas pu organiser l'élection, il demandera à la population de s'opposer.
Dans cette opposition, il n'y a pas aussi une honnêteté, il n'y a pas une franchise. Raison pour laquelle nous disons que même ceux qui parlent de l'article 64, comme ceux qui parlent de l'article
70,
raison pour laquelle nous disons que non, tous ces gens-là, quel que soit le pouvoir et de cette opposition dont vous faites allusion, tous préparent la violence dans ce pays. Raison pour laquelle nous disons, nous qui soutenons le dialogue, allons au dialogue, constatons, disons clairement à ces gens qui ont eu
quand est-ce qu'il faut aller au dialogue, parce que la lettre de Tshisekedi dit clairement le respect de la Constitution et les délais qu'elle prescrit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser le 20 novembre. Est-ce qu'on saura organiser le dialogue à 3-4 jours du 20 novembre, aussi longtemps qu'il n'y a pas de signaux forts qui prouvent à ce moment qu'il y aura élection?
Mais non, vous savez qu'il y a d'abord un problème du calendrier. Le calendrier actuel doit être révisité. Et donc, on va nous disant que non. Dans les délais, nous allons observer s'il y aura impossibilité d'organiser les élections. Nous allons constater que non, ceux qui ont eu le pouvoir, qui ont obtenu en fait ce mandat d'organiser les élections, ne l'ont pas fait. Alors, pourquoi maintenant les garder? C'est-à-dire qu'il faut trouver maintenant un compromis politique pour faire partir ces gens-là, afin que des institutions crédibles soient mises sur pied et que ces institutions nous organisent des élections dans les délais, en fait, dans les délais. Dans un bref délai.
Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa. Maître Sabouni, vous êtes à Kisangani. Bonjour maître.
Bonjour J.A.
Vous avez la parole maître.
Je voulais dire ceci, je voulais apprécier d'abord l'ami qui vient de parler avant moi, parce que concernant la convocation du dialogue, cette ordonnance tombe directement caduque. Là nous sommes d'accord parce que la convocation c'est de 10 jours. Après 10 jours, on doit changer, on doit émettre une autre ordonnance pour remplacer celle qu'on avait il y a avant. Concernant les dialogues, nous disons ceci. Nous, du MSC, nous avons quand même une position claire et nette devant l'UDPS. L'UDPS doit quand même être aussi claire devant ses militants pour dire oui. S'ils disent oui au dialogue, il y a des cas, ce qui est le cas qu'on pourrait entre les gens de l'UDPS eux-mêmes. Les autres partis de l'UDPS disent nous voulons le dialogue. Au niveau de Bruxelles, les gens disent non, on a rejeté le dialogue. Mais nous, du MLC, si nous disons non au dialogue, parce que nous, nous sommes victimes de ça, en 2006, si à l'intérieur de non, on a eu des problèmes entre la majorité et l'MLC. On a dit quoi? Comme les élections étaient déjà là, quand on avait respecté l'état judiciaire qui était le suprême à ce moment-là, la Cour avait décidé que non, on a invalidé le président Kabila au pouvoir, on a dit oui, nous avons dit accepter démocratiquement. Maintenant, en 2006 passé, à la fin du mandat de 2006, en 2011, on a dit les problèmes surgissent encore. Et c'est les problèmes dont nous avons tous vécu, des premiers tours, des deuxièmes tours, on a changé l'homme, on a modifié la Constitution. Mais pour le moment ici, même la CENI cherche des manœuvres dilatoires pour dire aux gens que le président de CENI est extrêmement ici. Nous, la même chose, nous avons dit, mais c'est des manœuvres dilatoires. Le président de la CENI avait dit que l'enrôlement de 2006 avait pris 14 mois, l'enrôlement de 2011, 14 mois. Mais il faut l'enrôlement de nouveaux majeurs. Si nous prenons aujourd'hui, au mois de mars, 14 mois, nous avons déjà des délais constitutionnels. C'est la raison pour laquelle nous disons, non, laissons des manœuvres dilatoires.
nous sommes prêts à aller aux élections. Privilégions d'abord les élections présidentielles. Laissons les autres. Parce que c'est là où même les Occidentaux, même nos partenaires disent qu'il faut privilégier. Si nous cherchons à avoir les mandats des députés provinciaux, si nous cherchons à voir comment la tenue, nous allons toujours aller pour rien. Nous, l'IMSD, dans la ville d'Extrême ici, nous sommes fiers. Nous disons non, non au dialogue.
Voilà,
nous
merci.
Disons,
merci beaucoup.
Respectons les délais constitutionnels.
Voilà, merci beaucoup, Maître Sabouni, d'avoir appelé l'Extrême. À bientôt. On va juste clôturer avec vous hein, une phrase. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce tournant, dans cet étau autour du dialogue?
Je voudrais constater que le président Kabila et même le président de l'IDPS tous avaient ignoré l'accord cadre du 26 février 2013 à Addis Abeba sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, qui avait demandé que les dialogues soient convoqués sous les bons offices de M. Kobler, alors c'est le président du secrétaire général en République du Congo. À ce moment-là, l'IDPS n'avait pas demandé des dialogues. Et au lieu que le président Kabila organise les dialogues, il avait plutôt organisé des concertations qui avaient sorti plus de 700 recommandations, parmi lesquelles des bonnes recommandations, mais lesquelles ont été organisées. Pourquoi auraient été réalisées? Pourquoi croire aujourd'hui que si on va au dialogue, on va obtenir des recommandations qui cette fois-là seront réalisées? Mais moi, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce dialogue. C'est quand on a eu du contact Kabou, on commence à créer des associations, des motards, des cambistes, des rassas pour soutenir le dialogue. Vous vous demandez qu'est-ce que cela vient faire dans l'organisation d'un dialogue où on va décider du financement des élections. Ce sont les motards qui vont financer les élections, la sécurisation des élections. Ce sont les rassas même. Vous savez qu'à Kinshasa, il existe déjà un groupe de sportifs, apparemment, pour essayer de contourner les autres qui vont essayer de manifester. Tout ça, ça montre que les pouvoirs...
Voilà, merci beaucoup à Mathieu d'avoir appelé des Bukavu. Nous allons nous arrêter là. Donc, ça est fini pour aujourd'hui. Si nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro. Merci à Hippolyte Kapanga qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Pierre Labégie et Gilles César Bourgonda. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Mugabo. À très bientôt.